des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé.
J'ai pas le temps de faire ça.
Cher Loïc, bonjour.
Chère Isabelle, bonjour.
Alors Loïc Tassé, spécialiste en politique internationale. Loïc, tu veux d'abord commencer en nous parlant des échanges tendus qu'il y a eu entre le PDG de TikTok aux États-Unis et les élus au Congrès américain?
Oui, des échanges très tendus, parce qu'il y a 150 millions de personnes qui utilisent TikTok chaque mois aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi ici.
Ouais.
TikTok qui vient ce matin de se faire bannir par les parlementaires en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que les fonctionnaires, les membres du Parlement ne pourront plus utiliser TikTok.
Comme chez nous, finalement.
Comme chez nous, exactement, parce qu'on soupçonne TikTok de se livrer à de l'espionnage et à de la manipulation. C'est ça que disent en tout cas les gens qui sont à la Chambre des représentants américaine en ce moment. Le PDG de TikTok, Shao Zi, devance le comité d'énergie et de commerce. Et c'est pas drôle. Il se fait griller, il se fait poser des questions qui sont difficiles, il s'en sort pas très bien. Les gens sont plutôt agressifs parce qu'il y a des rapports qui disent que en fait, TikTok accumule plus de données que n'importe quelle autre application. On se demande bien pourquoi. Et parce que on dit que TikTok fait de la manipulation aussi. Mm-hmm. Parce que ce sont des très courtes vidéos, etc. Et ils choisissent, etc. Et ça oriente l'opinion publique. Et plus que ça, c'est surtout ça qu'on reproche à TikTok, c'est que le gouvernement chinois aurait accès à toutes ces données. Et Shao Zi a même reconnu que oui, en fait, parce que les serveurs étaient en Chine, il y a des Chinois qui pouvaient avoir accès aux informations qui sont sur les serveurs. Mais dit-il, je vais tout déménager aux États-Unis. Oui, mais ça règle pas le problème.
Mm-hmm.
On lui dit, est-ce que vous avez rencontré des gens en Chine qui étaient des hauts responsables? Oh non, dit-il, je n'ai rencontré personne du gouvernement chinois depuis que je suis PDG. Oui, du gouvernement chinois, on le croit. Mais qu'en est-il des membres du Parti communiste chinois? Parce que c'est eux qui dirigent vraiment. Ils font une distinction un peu spécieuse ici entre les gens qui travaillent au gouvernement et les gens qui travaillent dans le Parti communiste chinois. Mais à l'évidence, il les a probablement rencontrés. Donc ça va vraiment pas bien pour TikTok. Et Biden...
Mais tu sais, c'est une question peut-être de base, là, mais j'ai l'impression qu'on tombe... Ça se peut, là, tout ça... Mais tu sais, est-ce que TikTok est pire que bien d'autres plateformes?
La question, c'est pas là. La question, c'est que derrière TikTok, t'as le Parti communiste chinois,
ouais.
Et c'est un État totalitaire.
Mm.
Et c'est un État qui cherche à faire tomber les démocraties et donc à accumuler de l'information sur les citoyens américains, donc éventuellement sur des fonctionnaires, etc., sur ce qui se passe. Tu sais, il y a une méta-analyse qui se fait de toutes ces données et ça peut conduire à des renseignements très pointu, très privilégié sur le fonctionnement de l'administration américaine, ou sur des secrets d'entreprise, où ça peut permettre de faire chanter des gens. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas ça aux États-Unis. C'est pas une démocratie de toute façon qui ferait ça. Le gouvernement canadien est pas derrière une compagnie informatique en train de recueillir les données informatiques pour en faire une analyse, pour faire tomber une autre démocratie. Pas du tout.
Mm-hmm.
Le gouvernement chinois, lui, par contre, faut toujours se souvenir que c'est devenu un gouvernement totalitaire,
ouais.
Un dictateur qui est à la tête de ça, qui a même violé les propres lois de son pays pour devenir dictateur pour un troisième mandat consécutif. Et c'est très sérieux dans ce sens-là. C'est pas un pays ordinaire,
non,
malheureusement.
Clairement.
Alors, c'est ça qui est derrière ça.
Parlons un peu du Parlement israélien qui vient de voter une loi là, qui place justement, tu viens de parler du Chinois qui s'est autoproclamé jusqu'à sa mort, finalement, en charge de son pays, mais il y a d'autres exemples aussi.
Oui, on entre dans l'ère des dictateurs, très clairement, tu sais, avec la rencontre entre Xi Jinping et Poutine, on connaît notre ami Kim Jong-un.
Et là, Netanyahou?
Oui, exactement. Mais Netanyahou est en train de se faire se tailler un petit pouvoir de dictateur parce qu'il vient de faire passer une loi à 61 pour 47 contre, une loi à la Knesset, qui est le Parlement israélien, qui dit que, en fait, si jamais il est jugé par la Cour qui est indépendante, hein, s'il est jugé coupable d'un crime ou de quelque chose comme ça, les trois quarts de son cabinet, pas des élus, de son cabinet, doivent le déclarer inapte physiquement ou psychologiquement pour qu'il cesse de gouverner. En d'autres termes, il est au-dessus des lois.
Ouais,
c'est lui qui choisit les membres de son cabinet. Imagine les trois quarts des membres de son cabinet qu'il a lui-même choisi, qui dirait qu'il est inapte à gouverner pour des raisons psychologiques ou physiques ou parce que jamais de la vie, ils feront ça. Donc, tout compte fait, il vient de se placer au-dessus des lois. Et M. Netanyahou n'est pas un homme d'une honnêteté à tout craint, là. Il est accusé dans trois affaires distinctes, de fraude et d'abus de confiance. Et ce sont des accusations très, très graves. Les procès ont lieu. Mais s'il est condamné, ben, il va pouvoir rester Premier ministre sans aucun problème. Alors, il y a des gens dans la rue, en Israël, qui descendent, qui disent « Qu'est-ce que c'est que ça ? Depuis quand est-ce que quelqu'un est au-dessus des lois ?»
Ouais,
depuis quand?
C'est fou.
Et ça fait partie, ça, effectivement, d'un ensemble beaucoup plus vaste, d'une loi beaucoup plus vaste, parce que le gouvernement fait des choses qui sont parfois contre. La constitution est non écrite en Israël, donc la constitution non écrite d'Israël, devrait-on dire, comme en Angleterre, hein, la constitution est non écrite aussi. Alors, qui vont contre la constitution, les juges disent que c'est anticonstitutionnel, et à ce moment-là, la loi est immédiatement devient nulle. Mais non, plus maintenant, parce que dans cette même loi, les juges n'auraient plus le droit, finalement, de déclarer que quelque chose est inconstitutionnel, ou si ce l'est, ben, ça pourrait être renversé par la majorité simple à la Knesset, 50% des voix plus une. Tant pis si c'est inconstitutionnel. Alors, n'importe quelle majorité gouvernementale, enfin, c'est une coalition en ce moment, pourrait renverser toutes les lois inconstitutionnelles. Pourrait faire en sorte que des lois inconstitutionnelles passent. C'est assez scandaleux.
Oui, quand tu le décris comme ça, je pense qu'on comprend bien l'enjeu.
S'installe insidieusement, petit à petit, tu comprends?
Oui, tout à fait.
Puis, c'est plus l'état de droit.
Allons en Inde, Loïc Tassé. Explique-moi ce qui se passe là, parce que là,
on parle beaucoup moins de l'Inde et on devrait en parler. Évidemment, c'est presque 1,4 milliard d'habitants. C'est énorme. Et il est en train de se produire des choses en Inde qui sont très très inquiétantes, surtout l'ère des dictateurs autour de Narendra Modi, le premier ministre de l'Inde, qui est en train de développer un culte de la personnalité chez lui. Et qui vient d'aller de pousser tout ça un cran plus loin, il vient d'accuser son principal opposant, Monsieur Gandhi. Il vient de l'accuser de quoi ? Il vient de l'accuser d'avoir traité de voleur. Il a été en cour pour ça et pour diffamation. Il a été condamné à 2 ans de prison pour diffamation parce qu'il a dit.
Il a dit pourquoi tous les voleurs ont-ils maudit comme nom de famille?
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Pourquoi de grands voleurs ont-ils le nom de maudit comme nom de famille? Mm-hmm. Puis, il y en a nommé quelques-uns, puis il a rajouté le nom du premier ministre.
Ouais. Bon, il a parlé du mania du diamant indien en fuite, Nirav Modi, le patron de la première ligue indienne, Lalit Modi, Narendra Modi. Enfin, visiblement, les Modi sont, c'est un nom de famille
les Modi,
courant.
C'est un nom commun. C'est en Inde, je sais pas combien, il y a des centaines il y a probablement des dizaines de millions de Modi.
Ouais.
Évidemment, c'est pas très gentil pour les Modi, c'est très exagéré. Mais tu mets pas quelqu'un en prison pour ça.
Non, effectivement.
Surtout quand c'est le principal opposant politique et qu'il y a des élections là.
Mais disons que Gandhi, Gandhi est un nom connu aussi.
Ben oui, Gandhi est un nom très connu. Lui-même vient de la grande famille des Gandhi. Il est le fils d'un ancien premier ministre, Rajiv Gandhi, qui a été premier ministre de l'Inde. Puis lui-même est l'arrière-petit-fils de Nehru, qui a été le premier ministre de l'Inde. C'est une grande famille, etc. Mais c'est surtout le principal opposant.
Mais là, écoute, tu nous fais un spécial dictature aujourd'hui. T'es en ligne tous.
De Vladimir Poutine, ça.
Ben oui, t'es en ligne complètement. Puis c'est bien parce que ça nous amène m'amène à ton prochain sujet. On parle des pays les plus corrompus au monde l'année dernière. Il y a un classement là qui est toujours intéressant à regarder.
Et c'est Benoît qui m'avait demandé de sortir. On n'a pas pu en parler
hier. Il n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux? Ça sera à moi que tu vas raconter ça.
C'est toi qui vas avoir la chance.
Exact.
En fait, le classement, c'est le classement qui est sorti de l'index de perception de la corruption.
Oui,
perception.
Voilà.
Ouais. C'est sorti le
mais tu sais, des fois, la perception, c'est un peu proche de la réalité.
Oui, ça nous dit quelque chose, mais en fait, c'est pas exactement ça. Alors, les pays les moins corrompus, tu vois, ils ont une note qui va entre 90% et 77%. Je te les nomme rapidement. En première place, le Danemark, suivi de la Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, Singapour, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne, et finalement, ex-aequo, l'Islande et le Luxembourg. Le Canada arrive au 14e rang avec 74%. La France est au 21e rang avec 72%. Et les États-Unis sont au 24e rang avec 69%. Ce n'est pas des pays corrompus en général. Et c'est un indice de perception de la corruption.
Oui, oui.
Soit dit en passant, l'Ukraine, elle a une note assez minable de 33%, 116e rang. Elle a reculé. Elle est passée d'une place. Mais la Russie est au 138e rang. Alors, les pires ont des notes très, très basses qui vont de 17% à 12%. Alors, je te les donne en prenant ceux qui sont les moins corrompus, entre guillemets, puis en allant vers le plus corrompu. Alors, le Burundi, très corrompu. Guinée équatoriale, Haïti, on s'en doutait. La Corée du Nord, la Libye, le Yémen, le Venezuela, et attention, roulement de tambour, les trois pays plus corrompus au monde, le Sud-Soudan, la Syrie et le pire des pires, la Somalie.
Oui, tout à fait.
Alors voilà.
Mais merci beaucoup, Loïc Tassé.
Plaisir. Allez, au revoir, Isabelle.